danser sur nos tombes, donc c'est bon. Non, ça va être chaud parce que pour moi, c'est le texte, un des textes les plus difficiles à prêcher de la Bible. Parce que j'ai un peu trop peur de comprendre ce que je comprends dans ce texte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le lire ensemble. Mais je ne vais peut-être pas suivre méthodiquement mes 7 pages de prédication. Alors, il y a 2 semaines, j'avais fait une prédication sur le salaire. Vous en souvenez? J'avais posé cette question, qu'est-ce qu'un juste salaire? Combien doit-on gagner en tant que salaire? Et puis, on avait travaillé ensemble et cette réponse était venue, on doit gagner ce dont on a besoin. On doit gagner ce dont on a besoin. On avait vu cette parabole des ouvriers de la dernière heure qui ont beau se pointer à la fin de la journée, le maître leur donne ce dont ils ont besoin. On avait vu la manne qui est répandue par Dieu sur le peuple et le peuple qui se la répartit de sorte que ceux qui en ont beaucoup n'en ont pas trop, que ceux qui en avaient peu n'en manquaient pas. On avait vu Jésus qui envoie ses disciples deux par deux dans les maisons et il leur dit, là où vous êtes accueillis, mangez ce qu'on vous sert, buvez ce qu'on vous donne, car l'ouvrier mérite son salaire. On avait vu Paul qui encourageait l'église de Corinthe à donner de l'argent pour aider les de Jérusalem et leur avait donné cette règle. C'est votre surplus que j'attends. Enfin, il ne s'agit pas de vous mettre vous dans la misère pour que d'autres soient dans l'abondance. Non, non. Et il cite cette règle d'équité de l'Exode en disant, afin que ceux qui en ont trop, beaucoup n'en ont pas trop, et ceux qui en ont peu, manquent de rien. Donc on avait travaillé sur cette notion du assez. Et le texte qui suit, donc, on était parti hein, le riche insensé, vous savez, qui lui a bien plus qu'assez, il a fait une méga récolte. En fait, puis ce qu'il fait, il dit, ben, j'ai une méga récolte, je vais faire des méga greniers pour avoir une méga réserve. Et le soir même, son âme lui est demandée, il meurt et tout ce qu'il a fait n'a servi à rien. Et là, après la parabole du riche insensé, ça va encore plus loin. Et je vous lis ce texte dans l'évangile de Luc, donc au chapitre 12. Juste avant de lire la parole, je vais prier. Voilà mon Dieu, j'aime ta parole et nous aimons ta parole et nous croyons que tu nous transformes, tu nous ouvres les yeux, tu nous renouvelles en elle, par elle. Et tu demandes de m'inspirer, de me conduire dans ce temps plutôt court pour parler d'un texte plutôt dur. Mais tu es bon et tu es grand et tu es merveilleux. On a dit qu'aucun autre Dieu, aucun autre n'est comme toi. Nous le croyons. Amen. Luc 12, 22, 34. Puis Jésus dit à ses disciples, donc suite à la parabole du riche, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet du vêtement dont vous avez besoin pour votre corps, car la vie est plus importante que les vêtements. Et car la vie est plus importante, pardon, que la nourriture et le corps plus important que le vêtement. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave à provision, ni grenier. Ça, c'est pour le riche. Mais Dieu les nourrit. Vous valez plus que des oiseaux. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il s'en fait. Si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Regardez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera rejetée au feu. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Comme votre confiance en lui est faible. Ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui cherchent sans arrêt cela. Mais vous avez un Père qui sait ce que vous avez besoin. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera le reste. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez l'argent aux pauvres. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent les y atteindre, ni les vers le détruire, car votre cœur sera toujours là où sont vos richesses. Amen. Donc trop simple, il ne suffit de pas s'inquiéter du lendemain. Voilà, ne vous souciez plus de la nourriture et du vêtement, parce qu'en fait, Dieu s'en occupe. Fin de la prédication. C'est super bien. Alors, vous allez poser la question, quel est le juste salaire? Combien on doit gagner? On doit gagner assez pour être heureux, pour être digne, pour ne manquer de rien. Et là, je vous poserai cette question. Pourquoi travailler? Pourquoi travailler? L'autre jour, je discutais avec deux mamies, certaines se reconnaîtront, et l'une dit qu'elle est partie à l'usine pour nourrir ses enfants, et l'autre dit qu'elle est partie à l'usine parce que, suite au décès de son mari, elle s'ennuyait. Pourquoi travailler? Eh bien, on va dire spontanément qu'on travaille parce qu'on a besoin de se nourrir et on a besoin de se vêtir. Voilà. Ça, c'est notre réalité à nous. Mais le travail vient de bien plus loin que ça. Le travail vient de loin. Il vient de la chute. Voilà. Ça, c'est le mensonge qu'on croit. Le travail vient de la chute. Non. Le travail, celui qui a inventé le travail, c'est pas le diable, c'est Dieu. Parce que Dieu, il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc l'auteur du travail, l'inventeur du travail, c'est Dieu. Et il a même créé les hommes à son image. Et l'homme doit travailler 6 jours. C'est beaucoup sur 7. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est fait pour le travail? Oui. Mais il se repose 1 jour. Donc, est-ce qu'on est fait que pour le travail? Non. Mais le travail joue un grand rôle dans notre vie. Mais le travail avant la chute n'a rien à voir avec le travail après la chute. Parce que le travail avant la chute, c'est la créativité, l'abondance, la multiplication, le partage, l'ingéniosité, la diversité. L'homme est recréateur, il prend la création de Dieu, le bois, il en façonne des architectures, des poutres, de la menuiserie, l'ébénisterie. L'homme prend la pierre créée par Dieu et il la recrée, il la refaçonne. L'homme prend la nourriture si diverse et il crée la cuisine. L'homme organise, nomme, classe la création que Dieu a faite. Allez demander à un zoologiste de vous expliquer les ordres, les sous-ordres, embranchements, machin. Cette façon qu'ils ont de classer la création, de l'observer, de la nommer, de la... un grand travail fastidieux. Le travail avant la chute était le sens de la vie de l'homme et le grand lieu par lequel il glorifiait Dieu, en fait. Le travail après la chute a pris un autre sens. Vous savez qu'on dit que trois choses dirigent ce monde. Vous les connaissez ? L'argent, le pouvoir, le sexe. Exactement. L'argent, le pouvoir et le sexe. Pourquoi ? Parce que l'homme a été créé pour régner, pour être en communion, pour se multiplier et pour cultiver. Sauf que le règne, après la chute, c'est devenu la quête du pouvoir. La multiplication, qui est la communion, le fait de vivre des communautés, de créer des communautés, c'est devenu la consommation de l'autre. Le pinacle de la consommation de l'autre, c'est le sexe pour le sexe. Et la culture, cultiver la terre, assujettir la terre. Le but n'a plus été la culture, ça a été l'argent. Que le travail de l'autre rapporte de l'argent. Et donc, pourquoi travaillons-nous ? Pour nous payer de la nourriture et pour nous payer des vêtements. Autrement dit, nous travaillons pour
l'argent.
Parce que ce monde, cette société dans laquelle nous vivons, a été orchestré, organisé, pensé, conçu pour faire de l'argent. Les femmes au foyer ne servent à rien parce qu'elles ne font pas d'argent. Les papis et les mamies, on prend chez nous. Pour s'en occuper, ça ne sert à rien. Parce qu'ils ne rapportent pas d'argent. Mais si vous les mettez dans des EHPAD, si vous confiez des enfants à des nounous, à des garderies, ça rapporte de l'argent. Notre monde est conçu pour rapporter de l'argent. Et le travail est d'abord conçu pour rapporter de l'argent. Et Jésus vient nous dire non. La vie, c'est plus que la nourriture et le corps, c'est plus que les vêtements. Pourquoi travaillez-vous ? Réponse de Jésus : travaillez pour le royaume. Et de la même manière qu'on avait une inversion terrible, une belle inversion avec cette notion de salaire, hein. On est tous là à s'achoper à ce texte sur les ouvriers de la dernière heure, et on se dit quand même, c'est pas très juste, ils débarquent à la fin, ils ont le même salaire que ceux qui ont travaillé toute la journée. Oui, c'est pas juste, sauf si le salaire est la manifestation de la dignité que j'accorde aux gens. Alors vous avez le même salaire parce que je vous accorde la même dignité, parce que vous êtes aussi précieux les uns que les autres, et que vous avez autant besoin de nourrir vos familles les uns que les autres. Là encore, inversion des choses. Est-ce que je travaille pour vivre ou est-ce que je vis ? Est-ce que je travaille pour vivre ou est-ce que je vis pour travailler ? Mais vivre pour travailler, ça demande soit d'être né avec une cuillère en argent dans la bouche, soit d'être un peu fou. Papa, maman, je serai intermittent du spectacle. C'est ma passion. Oui. Je ne veux pas faire un petit BTS, un truc, un diplôme, juste au cas où. N'avons-nous pas, nous, parents, besoin de voir notre enfant trouver sa voie, trouver le chemin qu'il va tracer, et puis qu'est-ce qu'on se sent rassuré quand il a décroché son diplôme, et puis qu'il va commencer, il a son premier travail. Alors là, ça y est, la voiture, le permis, c'est bon. Il va pouvoir gagner sa vie, payer ses factures, être autonome. Mais Jésus, regardez les corbeaux, regardez les oiseaux, regardez les lys des champs. Est-ce qu'ils se soucient des lendemains? Est-ce qu'ils font des greniers? Est-ce qu'ils ont du départ? Est-ce qu'ils font des placements? C'est-à-dire des stock options? Est-ce qu'ils font des investissements immobiliers pour... Non. Et là, on se dit, bah oui, mais c'est facile pour les oiseaux. Nous, c'est pas pareil. Ah bon? Qu'est-ce qui nous manque? Jésus nous dit, il nous manque la confiance. Il nous manque la confiance en l'avenir. Alors, on vit dans un monde où voilà, il y a déjà moins de c'est tellement important, c'est tellement vaste. On vit dans un monde où, en fait, on nous apprend qu'être un adulte parvenu, c'est être quelqu'un qui est autosuffisant, qui ne compte sur personne pour s'en sortir et pour subvenir à ses besoins et qui met assez d'argent de côté pour anticiper les coups durs. Ça, c'est quelqu'un mature et accompli. En fait, la Bible pense absolument pas comme ça. Imaginons ce riche, insensé, qui a bâti ses greniers parce qu'il avait trop de récoltes. S'il avait appliqué la règle des oiseaux du ciel, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Hein? Il aurait donné. Et donc, s'il aurait donné, ça veut dire qu'il y aurait des gens qui auraient dû recevoir. D'accord? Et vous, si je vous dis, voilà, on va rejouer l'histoire du riche qui est plein aux as, vous voulez jouer quel rôle? Celui qui reçoit ou celui qui donne? Allez, tous ceux qui veulent être celui qui reçoit l'argent des autres, lève la main! Qui c'est qui préfère donner de l'argent aux autres? Et votre réaction, c'est la mienne. Je la partage complètement. Mais elle dit quelque chose. Elle dit que quand on donne son surplus, par exemple, nous n'avons pas le sentiment de rétablir une équité. Nous n'avons pas le sentiment de reconnaître l'égalité de mes besoins et des tiens. Nous avons le sentiment de vivre un acte condescendant, où il y en a un qui est béni, qui est plus supérieur, qui réussit mieux, qui a plus, qui donne à celui qui a moins. Qui lui est dépendant, donc il est plus faible, donc il reçoit, et donc il est plus en échec, etc. C'est notre réalité. C'est ce que notre monde nous apprend, puisque notre monde nous apprend que quand tu arrives à être autosuffisant et quand tu arrives à avoir un compte en banque suffisamment garni pour parer les coups durs, tu es quelqu'un de sage et de prévoyant. Et nous avons appris à penser comme notre monde depuis notre plus tendre enfance, parce que moi, je me souviens de mon lycée, de mon orientation. Tu veux faire quoi? Ah ben moi, j'aimerais bien faire ça. Non, c'est bouché. Oui, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Oui, mais je sais pour l'avenir. Tu vois? Et on t'aiguille sur des carrières où il y a des débouchés, où ça gagne de l'argent. On t'aiguille pas sur là où tu vas être vivant, où tu vas être brillant, où tu vas donner quelque chose de passionné. Alors imaginons, moi, avec Camille, on termine le mois à plus 500. Donc on va construire un nouveau grenier en forme de livret A sur le nom de William. Peut-être qu'on n'a pas rencontré là au nom de William. Ou alors, on va le donner. Chercher à qui on a besoin. Et puis le mois d'après, paf, il faut faire la révision, je ne sais pas, le paralysme de la voiture. Là, c'est moi qui ai besoin d'argent. Ah ben, Tim, si tu l'avais gardé, paf, tu n'aurais pas eu besoin de demander. C'est vrai. Mais si je réfléchis comme Jésus, je regarde les transactions spirituelles. Regardez, ma communauté là, si le mois où j'ai plus 500, je donne à quelqu'un qui est béni, qui reçoit et qu'on vit cette interaction de restauration d'équité spirituelle, et que le mois d'après, c'est moi qui vais demander à quelqu'un d'autre. C'est le cas A. Et le cas B, c'est donc je garde mon fric pour moi, et quand j'ai un coup dur, je me paye seul, comme un grand. C'est le cas B. Lequel des deux cas bénit le plus la communauté? Lequel des deux cas fait grandir spirituellement le plus la communauté?
Le A.
Amen. Mais le A s'expose. Le A nous rend vulnérables. Le A nous rend interdépendants les uns des autres. Le A, il nous pousse à vivre comme un corps. Le A nous demande de faire confiance que quand j'aurai besoin, il y aura quelqu'un qui répondra. Le A nous oblige. Ah oui, on ne fait pas de grenier. Hein. Après, techniquement, on fait pareil que ça, sauf qu'on le fait avec des organismes privés. Les assurances, les mutuelles, c'est la même chose, hein. Sauf qu'on le fait avec des inconnus et des organismes privés qui gèrent ça. Et on a plus confiance. C'est pro. Bon, voilà, ce texte, il est dur pour moi. Et pour moi, Jésus le confirme quand il dit, ben voilà, vendez et donnez aux pauvres, faites-vous des bourses qui ne sucent pas. Ça veut dire changer votre rapport des choses à l'argent. Et donc, je suis appelé à croire, à avoir confiance en Dieu sur la base. La base, la nourriture et le vêtement, pour travailler. Travailler de façon vivante, de façon bénissante, de façon enrichissante, où je trouve où est-ce que je vais servir, bénir avec les dons que j'ai, et travailler dans l'esprit du royaume, c'est-à-dire dans la justice, dans la loyauté, dans la bonté, la bienveillance, la patience, la miséricorde, etc. Donc oui, c'est le royaume des merveilles, c'est un peu bisounours, mais en fait c'est extrêmement courageux. C'est extrêmement courageux. C'est la foi. Et la pire parole de tout ce passage de Jésus, là, il conclut en disant, mais voilà, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste sera mené par-dessus. Peut-être que vous commencez à comprendre que tout ce reste, ce n'est pas magiquement, il va y avoir 2000 euros sur mon compte en banque, ou magiquement, il va y avoir la CAF qui rembourse un arriéré. Mais en fait, ça fait 5 ans qu'on vous doit tant. Et puis, non, en fait, 99% du temps, quand Dieu il intervient auprès de son peuple, il intervient par son peuple. Quand Dieu il veut faire passer un message à son peuple, il va voir quelqu'un du peuple et lui dit, c'est vrai que tu fasses passer un message à mon peuple. Quand Dieu il veut... Et écoutez des témoignages des gens qui géraient des orphelinats pendant la guerre. Il n'y a pas de la nourriture qui est apparue magiquement sur le pas de leur porte quand ils avaient faim. C'est quelqu'un qui dit, on m'a dit de vous apporter cette pièce de... Voilà. C'est quelqu'un qui m'a dit, ah ben ça fait longtemps que je pense à toi et je vois, j'avais ta pension, je t'envoie un chèque. C'est toujours par le corps que ça passe. Parce que c'est comme ça que tu le corps vit. Alors le pire dans tout ça, c'est quand il dit, donc cherchez d'abord le royaume, ok, et après il dit, mais ne crains rien, petit troupeau, parce que il a plu à votre père. Ouais, c'est merveilleux déjà. C'est merveilleux parce qu'il nous aime et la bande de bras cassés que nous sommes. Ouais, il nous dit, je sais. Et la bande de bras cassés que nous sommes, il nous donne déjà le royaume. Ça veut dire quoi qu'il nous donne déjà? Ça veut dire qu'en fait, tout ce que je vous décris là, cette façon de vivre en confiance et en partage, et c'est pas loin. C'est un choix à faire comme ça. C'est un positionnement à faire par la foi. J'ai aucune idée de ce qui découlerait si toute la communauté décidait de faire ça d'un coup d'un seul. Ça me ferait peur, autant que vous, je pense. C'est pour ça qu'il a raison de dire que votre foi est faible. Mais il nous l'a déjà donné. Ça veut dire que moi, j'aimerais bien qu'ils disent « N'aie pas peur, petit troupeau, parce que plus tard, quand Jésus reviendra, il vous le donnera, et alors, à ce moment-là, vous pourrez le vivre et vous réjouir. » Ah, ouf, c'est vrai, c'est pas pour maintenant. Pour maintenant, on est dans ce monde un peu bizarre où on ne peut pas vivre toute notre espérance comme il faut. Mais c'est pas ce qu'il dit, malheureusement, il dit, il vous l'a donné. Ah, donc ça veut dire que c'est là. Mais ça, c'est embêtant. Je juste terminer avec une lecture de l'Ecclésiaste. Est-ce que j'ai 5 minutes? Vous raconte une histoire. J'ai vécu avec Camille. On vient un camp de formation à l'évangélisation extrême. Et donc, on était à Piccadilly Circus, à Londres. Ils nous rassemblent tous là avec nos duvets. Ils nous disent, voilà, on vous lâche là par groupe de trois, quatre. Et vous devez trouver quelqu'un qui vous héberge toute la nuit. Allons, allez. Parti. Et on était trois, je crois, avec une jeune fille. Et puis, alors, au début, on est cool, tu vois, on prend le temps, on est des gens, on fait des gestes et tout. Alors, Piccadilly Circus, Postmark, ça va être businessman et tout. Ils n'ont pas trop le temps. On se fait moucher aussi par un SDF. On essaie de lui parler de Jésus, de dire que peut-être ça serait bien qu'il sorte de la rue, puis on regarde, on fait « Mais Jésus, il est né où déjà, en fait ?» Et puis le soir arrive et on ne trouve pas. Un moment, on voit une prostituée, une call girl. On se dit, on dit « Allez, on va prier avec elle. » Et pour l'instant, on n'a plus prié pour personne. Et on lui propose de prier et elle s'agenouille par terre, elle lève les mains, elle baisse la tête. Et on lui prend les mains et on prie pour elle. Puis après, elle nous dit qu'est-ce que vous faites là? Et puis on lui explique où on en est et qu'est-ce qu'on va faire. On dit, je trouvais ça. Et elle nous emmène dans l'hôtel où elle travaillait, je ne sais pas, enfin, elle nous place dans une salle de réunion. Elle dit, vous pouvez dormir là, ne bougez pas, je vous apporte de la nourriture. On s'est barré. On a cru. On était complètement hors zone. Mais Dieu avait préparé une maison. Préparé un repas. Et elle a accepté tout. La prière, nous accueillir. Nous, on est parti. Ça demande du courage de vivre le royaume. Ça demande d'aller dans des domaines où on ne comprend pas. Ce texte, il est dur parce qu'en fait, on comprend. Comprend le renversement de l'ordre des choses dans notre vie. Comme ce texte. Ecclésiaste 4. 4-12. J'ai vu que tout travail, toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est là encore une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine de repos que deux mains pleine de travail et de poursuite du temps. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère et pourtant, oh, son travail n'a pas de fin et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pourquoi est-ce donc que je travaille, que je prive mon âme de jouissance? C'est là encore une vanité, une chose mauvaise. Alors deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Même si deux couchent ensemble, ils ont chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent le résister. Et la corde à trois fils. Amen.